les podcasts de Radio Vatican.
Un pas de plus vers l'abdication de l'empereur Akihito au Japon. Les députés japonais ont adopté vendredi 2 juin 2017 une loi spéciale qui permet à l'actuel empereur, et seulement à lui, de se retirer. Elle doit être examinée par le Sénat dans les jours qui viennent. La date de l'abdication n'est pas précisée dans la proposition de loi. L'empereur Akihito avait déclaré en août dernier dans une allocution « Je suis aujourd'hui en bonne santé, cependant, quand je vois ma forme décliner progressivement, je m'inquiète de la difficulté à remplir mes fonctions en tant que symbole de l'État ». Âgé de 83 ans, vieillissant, il a souffert ces dernières années de plusieurs maladies et opérations. L'empereur Akihito est monté sur le trône en 1989 à la suite de son père Hirohito, dont le rôle pendant la Seconde Guerre mondiale a été controversé. Il apparaît comme un empereur attaché au pacifisme du Japon face au premier ministre Shinzo Abe qui a évoqué la révision de la Constitution pacifique de 1947. Écoutez l'analyse de Jean-François Sabouré, directeur de recherche au CNRS. Il est interrogé par Sarah Bakaloglou.
Il y a deux visages de l'empereur Hirohito. L'empereur Hirohito avant et pendant la guerre, puis ensuite l'empereur Hirohito, tout à fait aimable, gentil, ouvert à la démocratie et allant passer s'amuser une soirée à Disneyland. Ça, c'est deux choses, mais néanmoins, c'est la même personne. Maintenant arrive l'empereur Akihito, son fils, qui, lui, aurait été l'empereur de la paix. Lui n'aura participé à aucune action de guerre. Peut-être par les forces d'autodéfense, le Japon s'est lié aux États-Unis, mais il n'y a pas de théâtre mondial de guerre. Et quelque part, je pense que cet homme-là, d'une part, il est aimé des Japonais et du Japon, c'est un homme de paix. On l'a vu pour le séisme et l'explosion nucléaire de Fukushima, il est allé voir les gens, il s'est agenouillé avec eux pour leur parler. Et donc, c'est quelque chose qui a énormément touché les Japonais. Maintenant, il y a un autre jeu politique qui se joue dans le même temps, c'est celui de M. Abe Shinzo, l'actuel Premier ministre, qui veut modifier la constitution de 1947 pour autoriser le Japon à faire la guerre. Il me semble que l'actuel empereur ne partage pas ce point de vue-là. Et il ne veut pas se faire en quelque sorte entraîner dans cette dérive politique de M. Abe Shinzo. Donc, il est vrai qu'il est fatigué, c'est un métier harassant d'être empereur parce qu'il doit inaugurer toutes sortes de choses, signer des actes et tout cela, et assister à des cérémonies officielles, mais quelque part aussi, il a envie de se retirer de la vie pour, politique pour pouvoir qu'on puisse dire de lui en quelque sorte, moi je n'ai pas touché à cette chose-là. Cela dit, il laisse, pardonnez-moi l'expression, le bébé à son fils. Mais on verra bien si le fils pense la même chose et fait la même chose.
Vous nous avez dit que ce retrait aussi de l'empereur pouvait être interprété comme la manière de montrer un certain désaccord face à la position de Shinzo Abe. Quel est le poids que l'empereur peut avoir justement face à un projet comme celui qu'a Shinzo Abe de révision de la Constitution ?
L'empereur ne s'exprime pas. Ses discours sont préparés. Il est extrêmement... C'est le prisonnier sacré. À mon sens, il ne peut pas s'exprimer. Il est extrêmement surveillé, extrêmement contrôlé. Et c'est vrai que le Parti libéral démocrate, qui est au pouvoir pratiquement depuis la guerre, même s'il a changé de nom à un moment, c'est un parti unique au Japon. Il tire les bénéfices de l'image qu'il a de protéger le fauteuil impérial. Alors, ça fait mauvais effet quand l'empereur lui-même dit « Oui, vous savez, la politique que vous faites, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment, je ne veux pas que l'on fasse cela. » À mon sens, il ne peut pas le dire. Il le laisse entendre. Il dira, vous savez, je suis fatigué, et puis le monde, c'est bien compliqué, je n'arrive plus à comprendre. Et parfois, quand je dois lire des documents, je ne comprends pas bien. Ça veut dire, en fait, je ne suis pas d'accord, est-ce qu'on me fait lire.
Vous nous avez dit que l'empereur actuel était très populaire. Comment les Japonais perçoivent-ils l'abdication qui arrivera ?
Ils comprennent qu'à 83 ans, 84 ans, on veuille prendre sa retraite. Et donc, et la fatigue qui est là. On a bien des papes chez nous qui prennent leur retraite aussi. On ne meurt pas à la tâche. Et donc, c'est tout à fait admis. Par contre, ce que les Japonais et les Japonaises ont moins admis, c'est le fait qu'il y a eu une discussion à un moment, puisque celui qui va devenir l'empereur a une fille, il n'a pas de fils, il a une fille. Et donc, question importante et qu'on a posée aux Japonais, aux Japonaises dans la rue, des sondages. Est-ce que vous verriez, c'est pas pour maintenant, puisque celui qui va devenir empereur a 57 ans. Donc, mettons qu'il ait encore 20 à 25 ans devant lui. Mais est-ce que ensuite, cela vous pose problème si sur le trône monte non pas un homme, mais une femme? Au Japon, c'est la loi salique aussi, c'est les hommes. Et la plupart des Japonaises, bien évidemment, ont applaudi et approuvé bruyamment en disant « Ben non, pas du tout, c'est très bien, c'est excellent, pourquoi une femme ne pourrait pas être le symbole du pays ?»
Et le futur empereur, qui est donc le fils aîné de l'empereur actuel, est-ce qu'il est connu des Japonais ?
Bien sûr, parce que quand il s'est marié en 92, je crois, il s'est marié avec une fille du peuple, non pas une fille de la noblesse, mais une fille du peuple. Une jeune et belle femme qui parlait déjà trois ou quatre langues étrangères, dont le français. Il était beaucoup plus petit qu'elle, moins séduisant qu'elle, et elle ne voulait pas l'épouser, pour dire la vérité. Ben, c'est ce que disent les journaux. Elle voulait faire une carrière et terminer comme ambassadeur, ou peut-être plus si affinité. Le fils de l'empereur a jeté son dévolu sur cette jeune femme. Et il a dit, c'est elle que j'épouserai ou j'épouserai personne. Et il est bien évident qu'on ne peut pas dire non à l'empereur toute sa vie. Donc, je crois, on présente ça comme ça. Elle s'est fait une raison, elle s'est mariée avec lui, et ils ont eu une fille, après déjà plusieurs années d'ailleurs, ça a été un peu compliqué. Elle pensait être libre de dire ce qu'elle voulait, faire ce qu'elle voulait, enfin, un peu comme toute personne en bonne santé, intelligente, mais la maison impériale qui contrôle ses prisonniers sacrés lui a bien fait comprendre qu'elle ferait ce que la maison impériale aura décidé dans ses discours, dans ses actes, dans ses déplacements, dans son apparence, etc. Et donc elle a déprimé et pendant plusieurs mois, on ne l'a pas vu, ils l'ont retiré de la circulation, on a présenté ça comme une fatigue, une asthénie généralisée, je ne sais pas quoi. Bon, maintenant elle réapparaît, puisqu'elle va devenir impératrice. Elle réapparaît, mais est-ce qu'elle est véritablement heureuse de son job, si j'ose dire, je n'en suis pas certain.
Des propos recueillis par Sarah Bakaloglou.